combien de fois? Trois fois. Hein? Deux fois, c'est Dieu qui lui dit, lève-toi. Puis une fois, c'est le pilote. C'est le pilote, c'est le capitaine du bateau qui lui dit, lève-toi. Deux fois, c'est Dieu qui lui a parlé, puis une fois, c'est l'homme du bateau qui allait pourtant se convertir. Alors, va à Ninive. Évidemment, on pourrait vous parler de Ninive, mais je vous le dis encore, si vous voulez savoir un peu ce qu'était cette Ninive, vous lisez Nahum, chapitre 1, verset 1, chapitre 2, verset 8, chapitre 3, verset 7. Et je l'ai souligné déjà hier, c'était une ville sanguinaire, une ville de crimes, de meurtres, où on pratiquait la torture, le mensonge, la corruption, la violence, le vol, la rapine. C'était une ville connue par son orgueil, la grande ville, la grande ville. Et on pourrait, ça vous fait penser à quelles autres villes qui ont été détruites? Sodome, Gomorre et Babylone, hein, la grande Babylone. Ces villes de péché. Et il fallait que Jonas aille à Ninive. Et il devait y proclamer quoi? La parole que Dieu allait lui ordonner. C'est pas à nous qui allons composer une prédication là pour ces gens-là. Ce que un prophète doit transmettre, c'est la parole de Dieu. Selon le cri que je te dirai, crie contre elle. Crier contre, c'est quelque chose. Mais Jonas, maintenant, ben, une fois qu'on est mort, on ose. Un mort vivant, il ose. C'est quelque chose, mais il faut d'abord passer par cette mort. Hein. Alors, il peut y aller. Et Jonas s'en alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. C'est beau maintenant l'obéissance, hein. Avant, il fuyait loin de sa face. Maintenant, il y va selon la parole de l'Éternel. Et quand on va selon la parole de l'Éternel, on arrive à destination. On arrive toujours à destination quand on suit la parole de Dieu. Jonas s'en alla et il arriva donc. Vous allez me dire, mais enfin, comment est-ce que Jonas a fait? Quelqu'un me disait, mais où est-ce que le poisson l'a vomi? Ça, je ne sais pas. Oui, mais alors il y avait des caravanes hein, qui s'en allaient à Ninive, la grande ville, parce qu'il y avait des relations en Orient. C'était des caravanes de chameaux. Ça, alors on faisait ces grands voyages en chameaux. Alors, peu importe comment Jonas est arrivé, je vois qu'Ézéchiel, lui, il a été pris, transporté par les cheveux, par le Seigneur. Comme ça, il l'a pris à un endroit et puis il l'a amené à Jérusalem. Il n'est pas dit comment Jonas a été transporté à Ninive, mais quand on est prêt à faire la volonté du Seigneur, le Seigneur nous donne des possibilités. Et le Seigneur nous aide. On a vu Paul allant à Rome gratuitement, quand on est dans la volonté de Dieu. Mais quand il arrive, puis voilà, il est aussi un drôle de zéro, là. Il voit la grande ville, il y a trois journées de chemin. Qu'est-ce que je vais faire? Comment parler à cette ville? Il n'y a pas la télévision, il n'y a pas la radio. Pas de haut-parleurs, hein. Il y aurait des automobiles avec des haut-parleurs qu'on crie là. La petite voix de Jonas. Qu'est-ce qu'il va dire? Mais il y a des questions qui pourraient se poser. Comment est-ce qu'il a fait? Quelle méthode est-ce qu'il a employée? Il faut toujours commencer. Il commença à entrer dans la ville. Le chemin d'un jour. Vous ne trouvez pas que c'est beau? Et cela, on a découvert dans les ruines de Ninive que la grandeur de cette ville est exactement comme ça a été décrit ici. C'était une très grande ville, mais la périphérie, c'était 3 jours de chemin pour faire le tour de Ninive. Alors, il faut commencer par le chemin d'un jour. À chaque jour suffit sa peine. Demain sera en souci de lui-même. Pourquoi est-ce qu'on se fait tout le temps du souci? Dis ce que tu dois dire aujourd'hui, ne pense pas à demain. C'est aujourd'hui le jour où on doit proclamer la parole. Alors il a crié, selon le cri que l'Éternel lui avait dit, et quel est ce message? Encore 40 jours et Ninive sera renversée ou sera détruite. Donc, il y a combien de mots en français ici? 7 mots. Hein? 7 mots simplement. Et qui est-ce qui a touché les cœurs? Est-ce que c'est vraiment simplement cette prédication pour qu'ils soient amenés à croire? Qu'est-ce qui touche les cœurs? C'est le Seigneur. Ne croyons jamais que c'est le prédicateur qui touche les cœurs. Oh, ce prédicateur, je l'aime parce qu'il s'est touché mon cœur. C'est de l'hommerie tout ça. Jean-Baptiste, il a souffert de ça. On l'aimait. Il y avait des femmes qu'il détestait, oui. Mais sans ça, ses disciples, ils l'aimaient bien. Puis ils allaient vers lui, puis ils lui disaient, tu sais, Jean, celui à qui tu as rendu témoignage, maintenant tout ce monde à lui. Puis il pleurait 3 gouttes. Jean-Baptiste disait, mais moi ça me réjouit ce que vous m'annoncez là. Qu'ils ne viennent pas vers moi, mais ça me réjouit. Vous me rendez vous-même témoignage que je vous ai dit, c'est pas moi, c'est lui. Au fond, pourquoi est-ce que vous ne vous y êtes pas vers lui? Vous voulez rester vers moi? Mais moi je dois diminuer, puis il faut que lui croisse. C'est ça les sentiments d'un vrai serviteur de Dieu. Il faut que lui croisse et que moi, je diminue. C'est pas que vous vous attachiez à moi. Un type comme Jean-Baptiste, c'est un homme transparent. Avant d'avoir perdu la tête, il est déjà transparent. Il ne voile pas le Seigneur. On ne s'arrête pas à Jean-Baptiste. On va plus loin. On va vers Jésus. C'est ça qui est merveilleux. Que nous devenions des hommes transparents, des femmes transparentes. On n'arrête pas les affections des gens à nous. Il faut que les gens s'attachent au Seigneur. Parce que nous sommes des gens qui passons, nous sommes des gens qui décevons. Il faut que vos âmes soient attachées au Seigneur. Et puis voyez-vous, c'est la parole qui fait son effet. Parce que là, il est pas dit que Jonas a fait beaucoup de choses. Il était Jonas, mais il a été un signe, parce qu'on a su quand même par où il avait passé. Et sa parole a eu l'autorité. Alors, comment est-ce que ça s'est propagé, l'histoire, pour que ça arrive jusqu'au roi, de bouche à oreille? Et voyez-vous, c'est ça qui est la meilleure méthode. Vous rendez témoignage d'abord à un. Et si vous êtes vraiment ce que vous êtes, ce que vous devez être, ça a un effet, ça a une puissance. Ce n'est pas simplement une parole, mais vous incarnez cette parole. Alors, donc la propagande se fait de bouche à oreille. Les hommes de Ninive crurent, littéralement, ils crurent Dieu. Ils crurent Dieu. Ils n'ont pas attribué ces paroles à qui? À Jonas. Mais ils ont cru Dieu. Et évidemment, vous pourriez méditer, et ça c'est pour ceux qui désirent se nourrir de la parole, encore 40 jours. Ça vous fait penser à quoi ces 40 jours? Comme les 3 jours et 3 nuits vous font penser à bien des situations, hein, de la mort et la résurrection de Jésus. Les 40 jours, c'est Jésus dans le désert, c'est aussi Moïse devant l'Éternel. 40 jours, il y a à travers toute la Bible, la course d'Élie, le prédécesseur de Jonas, hein, quand il fuyait devant Jézabel, il a mis 40 jours pour arriver à la montagne d'Horeb. Et puis il y aurait d'autres choses à dire au sujet des 40 jours. Mais enfin, c'est un délai qui est donné, donc, aux gens de Ninive. Les hommes de Ninive crurent Dieu. Alors, ils proclamèrent un jeûne et se vêtirent de sacs, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. Mais alors là, on pourrait toucher aussi et étudier toute la question du jeûne. Mais, vous voyez, quels sont les grands chapitres que nous pourrions étudier au sujet du jeûne? Ésaïe 58, en particulier. Et alors, on voit ce que c'est qu'un vrai jeûne, et ce que c'est qu'un faux jeûne. Dans Ésaïe 58, crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette. Voilà, on voudrait savoir comment Jonas a parlé. Hein. Il a parlé comme une trompette. Déclare à mon peuple leur transgression, à la maison de Jacob leur péché. Cependant, ils me cherchent tous les jours et trouvent leur plaisir à connaître mes voies. Ce n'était pas ce qui se passait à Ninive. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné le juste jugement de Dieu. Ils me demandent des ordonnances de justice. Ils trouvent leur plaisir à s'approcher de Dieu. Pourquoi avons-nous jeûné et tu ne l'as pas vu? Et avons-nous affligé nos âmes et tu ne le sais pas? Alors, le Seigneur répond, voici au jour de vos jeûnes, vous cherchez votre plaisir. Il y avait encore de la pratique là, en Israël. Vous exigez durement tous les travaux qui vous sont dus. Voici, vous jeûnez pour contester, quereller, pour frapper d'un poing méchant. Vous ne jeûnez pas maintenant pour faire entendre votre voix en haut. Est-ce un jeûne comme celui-là que j'ai choisi, un jour où un homme afflige son âme, courber sa tête comme un roseau, étendre sous soi le sac et la cendre? Appelleras-tu cela un jeûne et un jour agréable à l'Éternel? Vous voyez que il y a un faux jeûne. Mais quand c'est les païens qui ont fait cela, qui sont vêtus de sacs et de cendres, des gens qui avant ne recherchaient pas l'Éternel, l'Éternel a trouvé que c'était des gestes qui correspondaient à une attitude du cœur. Donc pour eux, là, c'était un vrai jeûne, parce que Dieu voyait leur cœur. Mais quand nous voulons singer ces choses, dire, mais moi je jeûne, comme les pharisiens, je jeûne deux fois la semaine, eh bien, ça n'a aucune valeur pour Dieu. Le jeûne, il a seulement une valeur quand il correspond à un état d'âme, à un état du cœur. Alors, pour les païens, bien, Dieu a vu que c'était un vrai jeûne. Et c'est allé même très loin, car le roi aussi a été touché, et il a même fait une ordonnance. Vous voyez, quand c'est l'heure de Dieu, et quand c'est l'œuvre de Dieu, bien, malgré qu'on n'a pas beaucoup de moyens, il y a une œuvre extraordinaire qui se fait, une œuvre d'évangélisation fantastique, et Jonas n'avait guère de moyens. Il se leva de son trône, ôta de dessus lui son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Ce roi a montré l'exemple, ça est venu de haut. Et alors, il fait crier un édit dans Ninive, un édit du roi assez grand, disons, que les hommes, les bêtes, le gros, le menu bétail. Et on apprend, quand on lit l'histoire profane, que c'est ainsi que ça se passait. Même, on mettait des sacs sur les animaux, parce que c'était l'ensemble de toute la création qui s'humiliait, qui ne goûte de rien, qui ne pèse pas, ne boivent pas d'eau, et que les hommes et les bêtes soient recouverts de sacs. Et qu'il crie à Dieu, c'est quel Dieu maintenant? C'est l'Éternel. C'est le Dieu de Jonas, et le Dieu de Jonas, c'est le Dieu d'Israël, et le Dieu d'Israël, c'est le seul vrai Dieu. Hein? Qui sait? Vous voyez, ils ne savent pas encore. Ils savent seulement que il y aura le châtiment et que Dieu, quand il dit quelque chose, il l'accomplit. Mais pourtant, en s'humiliant, ils se disent, qui sait, ils ont une espérance malgré tout, Dieu reviendra et se repentira, reviendra de l'ardeur de sa colère, et nous ne périrons pas, parce que c'est la mort pour eux. Le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est tellement beau, Dieu a des oreilles, mais il a aussi des yeux. Dieu vit leurs œuvres, qu'ils revenaient de leur mauvaise voie, et Dieu se repentit du mal qu'il avait parlé de leur faire, et il ne le fit pas. Donc, Dieu est un Dieu de grâce, et il donne encore grâce. On reprendra un peu ça. Mais j'aimerais pour vous donner encore une idée de ce qu'on peut trouver dans l'Écriture au sujet de notre Jonas. Vous citez un dernier verset dans Ésaïe, chapitre 42, de ce que peut être un serviteur de l'Éternel. Le serviteur qu'a été Jonas, et puis le serviteur de l'Éternel qu'a été le Seigneur. Chapitre 42 d'Ésaïe, verset 19. Quand on regarde d'abord Jonas, serviteur désobéissant, qu'est-ce qu'il a dit ? Qui est aveugle, si ce n'est mon serviteur ? Et sourd comme mon messager que j'ai envoyé. C'est vraiment Jonas, ça. Il a été aveugle, il a cru qu'on pouvait fuir loin de la présence de l'Éternel. Dieu lui avait parlé, il a fait le sourd. Qui est aveugle comme celui en qui je me confie et aveugle comme le serviteur de l'Éternel, pour voir bien des choses et ne pas y faire attention. Les oreilles ouvertes, il n'entend pas. Voilà. Alors ça, ce serait le serviteur de l'Éternel qui est désobéissant. Mais maintenant, prenez le Seigneur, serviteur de l'Éternel. Ce même passage, vous l'appliquez au Seigneur. Qui est aveugle si ce n'est mon serviteur? Quand il est descendu, le Seigneur, sur cette terre, pour pouvoir y vivre, qu'est-ce qu'il a dû être? Aveugle. Parce qu'en fait, il se serait arrêté. Il voyait bien des choses, mais il n'y faisait pas attention. Il entendait bien des choses. Il a fait le sourd. Comme mon messager que j'ai envoyé. Ça, c'est le Seigneur. Quand il allait de lieu en lieu, eh bien, les choses, oui, il les voyait. Les choses qu'il devait voir. Hein, les malheureux, les misères. Mais il y a tant d'autres choses. Il faisait comme s'il ne les voyait pas. Quand il entendait tant de paroles qui auraient pu l'arrêter, le décourager, il était comme un sourd. Il était mort. Bien oui, bien nous aussi, nous devons avoir cette attitude. Dans ce monde, vous allez entendre toutes sortes de choses, toutes sortes de critiques, mais faites-les mort. Vous n'entendez pas ça. Et puis, pour ces choses-là, le péché, toutes ces choses-là, au lieu d'y porter les regards, détournons nos regards, soyons comme des aveugles. Voir bien des choses et ne pas y faire attention, les oreilles ouvertes, il n'entend pas. Parce que si vous commencez à vous arrêter à ce que vous entendez, vous n'irez pas loin. Si vous commencez à vous arrêter d'après ce que vous voyez, vous n'irez pas loin non plus. L'Éternel a pris plaisir en lui. En qui est-ce qu'il a pris son plaisir? En son Fils bien-aimé. À cause de sa justice. Et il a rendu la loi grande et honorable. Ça, c'est le Seigneur. Tandis que Jonas, lui, le serviteur désobéissant, il a fait le contraire. Donc, les mêmes versets peuvent être appliqués au Seigneur, comme aussi ils peuvent être appliqués à Jonas, comme on a vu ce parallélisme dans le chapitre 2. Voilà, nous allons nous arrêter ici, et ce soir, 9 février 1985, nous avons le privilège de terminer notre étude de ce livre de Jonas avec ce thème « Un message pour notre temps ». Et je vous ai demandé de relire le chapitre 3 et le chapitre 4 de ce livre. Nous voulons demander à Dieu sa grâce. Nous te bénissons, notre Dieu, parce que tu nous accordes vraiment un grand privilège de pouvoir terminer cette semaine sous ton regard et occupé de ta parole, cherchant à y discerner par ton esprit la personne de ton Fils bien-aimé, qui seul nous a révélé le Dieu des cieux comme étant notre Père. Et nous voulons te demander que ce soir, nous puissions, par Jésus, mieux apprendre à connaître ce Père dont nous sommes devenus les enfants et que nous puissions vraiment en porter l'image, les caractères dans notre vie quotidienne. Car ta parole nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Nous le sommes maintenant. Et ce que nous serons n'a pas été manifesté, mais bientôt, très bientôt, quand tu viendras, Seigneur Jésus, et que nous te verrons en un instant, en un clin d'œil, quand nous n'aurons plus besoin de la foi pour te contempler, mais que nous te verrons dans la réalité. Tu nous affirmes que nous te serons rendus semblables. Oui, nous te verrons tel que tu es. Oh, ayant cette espérance dans nos cœurs, que nous puissions nous purifier comme toi-même, tu es pur. C'est notre prière, c'est notre cri. Enseigne-nous. Nous voulons t'écouter et nous voulons te suivre avec la force que nous trouverons dans ta grâce. En Jésus. Amen. Vous avez donc relu ce chapitre extraordinaire, chapitre 3 de Jonas, qu'on a quelquefois intitulé « Le plus grand réveil de l'histoire ». La ville de Ninive, cette ville dont nous savons quelque chose en lisant surtout le prophète Nahum, cette ville a été amenée à la repentance. Et évidemment, si nous disons, quand nous cherchons un message pour notre temps, nous pensons non plus à Ninive tout à coup, mais nous pensons à notre province. Nous pensons à nos villes, nous pensons au Québec. Et nous nous disons, mais comment ce miracle qui s'est accompli dans la ville de Ninive à la prédication de Jonas, pourquoi? Pourquoi ici au Québec? Pourquoi au Canada? Nous ne pourrions pas assister à une repentance déferlant sur tout le Québec, mais pas seulement sur tout le Québec, mais sur le Canada, tout entier. Et voyez-vous, vous allez être scandalisés peut-être certains, mais je rejoins un peu le profond désir d'un homme autrement qualifié que moi, qui a passé l'année dernière au Québec et qui, malgré tout ce qu'il a pu dire à côté de la vérité, eh bien, était quand même son message essentiel. Repentez-vous, Canadiens, Québécois, Prosternez-vous devant qui? Devant Dieu. J'ai pas besoin de vous dire qui était cet homme qui a osé dire ces choses à travers toutes les provinces. Et je vous promets que ces paroles ont atteint mon cœur. Et je la répète, une de ces paroles qui a atteint mon cœur. Qu'en est-il de votre relation personnelle avec le Dieu vivant? Et il y a 10 jours, je parlais à l'un de ceux qui a préparé sa venue ici au Québec et qui est professeur à l'Université Laval à Québec. Et nous étions tous les deux heureux de cette déclaration qu'il a faite en entrant à Québec en disant « La pierre angulaire, la pierre fondamentale de l'Église, c'est Jésus-Christ. » Ça, ça a été dit d'une façon absolument claire. Jésus-Christ est la pierre. Et je viens simplement pour témoigner de cela. Le Christ est la pierre angulaire et les croyants sont des pierres sur la pierre qui est le Christ. Il n'a pas dit que lui était la pierre, ou il n'a pas dit que l'apôtre Pierre était la pierre, mais que le Christ était la pierre. Eh bien, c'est des choses qui sont réjouissantes. Et cette repentance que nous demandons pour Québec, cette repentance qui a été donnée à Ninive, parce que réellement, elle a été donnée. Est-ce que vous pensez que c'est Jonas qui est arrivé à conduire ces gens à la repentance par toute espèce de moyen? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a apporté la parole. Et cette parole, c'était une parole de jugement. Il criait contre cette ville. Il avertissait cette ville. Vous n'avez plus que 40 jours. Vous n'avez plus que 40 jours. Et Ninive sera détruite. Et voilà que il y a tout ce bouleversement qui est opéré. Et pourquoi est-ce que Dieu ne pourrait pas bouleverser aussi nos Québécois qui, au fond, sont comme les Ninivites? On vit dans la violence au Québec de plus en plus, dans l'injustice, dans la corruption. Il y a la corruption partout, pas seulement au Québec, mais dans tout ce Canada, et pas seulement dans le Canada, mais dans le monde entier. Et voyez-vous, nos cœurs doivent être ouverts aux dimensions du cœur de Dieu, car Dieu est le Dieu du monde entier. Il n'est pas seulement le Dieu des Juifs, ce qu'il faut bien se souvenir. Il est le Dieu du monde entier. Et Jésus-Christ n'est pas mort seulement pour les Juifs, mais il est mort pour les péchés du monde entier. C'est l'apôtre Jean qui nous dit cela. Et nous devons envisager le salut du monde entier. Jésus, avant de retourner au ciel, a dit à ses apôtres, allez partout le monde et prêchez l'évangile, la bonne nouvelle, à quelques-uns, à toute la création. Alors, qui est suffisant pour ces choses? Eh bien, notre tâche. Est-ce que Jonas était suffisant pour Ninive? Ce n'est pas Jonas qui était suffisant. Il était totalement insuffisant. Il a fait le chemin d'un jour, et puis, il a apporté ces 7 paroles, quelques paroles. Mais ces paroles, bien Dieu les a fait fructifier, elles ont pénétré dans les cœurs. Elles ont été comme une épée à 2 tranchants. Et vous allez méditer encore sur ce chapitre pour apprendre vraiment ce que c'est que la repentance. Et comment un Jonas restauré par Dieu est encore utilisé. Et je le souligne encore une fois, comme c'est beau. Vous pouvez penser à Pierre. Pierre et Jonas. Hein? Le fils de Jonas. Pierre, Simon, le fils de Jonas, dans un sens. Hein? Eh bien, lui aussi, il avait manqué terriblement, il avait renié son maître. Avec des imprécations, quelque chose d'épouvantable. Puis il ne pouvait pas reprendre ses paroles. Hein. Quand elle est sortie de sa bouche, « Je ne connais pas cet homme !» Pourtant, il avait vécu en sa présence. Cet homme, quelques heures avant, seulement lui avait lavé les pieds. « Je ne connais pas cet homme !» C'est incroyable. Et vous croyez qu'on est mieux que Pierre? C'est qu'on ne se connaît pas. Si vous pensez que vous, ça pourrait pas m'arriver à moi, vous ne vous connaissez pas. Vous ne vous connaissez pas. Et c'est pourquoi on vit dans le tremblement quand on se dit, mais ça pourrait encore m'arriver. Vous voyez, l'apôtre Paul, qui avait pourtant vu le Seigneur dans la gloire, eh bien, il disait, voyez-vous, moi maintenant, je ne fais aucun cas de ma vie. C'est pas de vivre longtemps qui compte, parce que plus on vit longtemps, plus on risque de tomber. Plus on risque de pécher, parce que souvent, quand on meurt, on est recueilli de devant le mal, parce qu'une fois qu'on est parti, il n'y a plus de possibilité de pécher. Mais tant qu'on est sur cette terre, je pourrais tomber. Alors, l'apôtre Paul, faisant ses adieux aux anciens d'Éphèse, dans le chapitre 20 des Actes, leur dit, vous savez, moi, pour moi, je ne fais aucun cas de ma vie. Je ne la tiens pas pour précieuse à mes yeux. Ce qui compte, c'est que j'achève la course. Pourvu que j'achève la course. Parce que vous avez vu l'homme de Dieu de Judas, il n'a pas achevé sa course. Hein. Le lion l'a tué. Pourtant, c'était un homme de Dieu. Et il a manqué. Il a été repris avant le temps. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, qui avaient été dans la présence de Dieu, ils avaient vu la gloire de Dieu. Ils avaient mangé sur la montagne. Ils avaient vu la gloire de Dieu. Lisez ça dans le livre de l'Exode. Et puis pourtant, ils ont offert un feu étranger à l'autel. Et ils ont été consumés. Les deux fils d'Aaron, c'est pas parce que c'est des fils à papa, les fils d'Aaron, les neveux de Moïse. Que Dieu les a épargnés. Et puis Aaron, tu ne vas pas pleurer. Ils sont frappés. Dieu est Dieu. Et il faut qu'on s'en souvienne. On ne se moque pas de Dieu. Je pense que nous devons être pénétrés de cela. Mais voilà, est-ce qu'on tombe et qu'on ne se relève pas? Est-ce qu'on se détourne et qu'on ne revient pas? Dieu a fait grâce à l'apôtre Pierre. Il l'a restauré et c'est lui qui va être l'instrument pour ouvrir le royaume de Dieu à 3000 personnes le jour de la Pentecôte. Jonas, malgré sa faute, malgré sa chute, malgré son éloignement du Seigneur, après l'expérience bouleversante qu'il a dû faire dans les profondeurs de la mer et au sein même de ce monstre, du poisson, eh bien, Jonas, restauré parce qu'il s'est reconnu, parce qu'il a confessé sa faute, va être employé pour le réveil. Comme on l'a dit, le plus grand réveil du monde, le réveil de cette ville, Ninive, qui était destinée à la destruction. Et Dieu lui a fait grâce encore pendant près de 2 siècles, en tout cas 1 siècle et demi. Elle a été détruite quand même, parce que les générations qui ont succédé n'ont pas suivi. On n'est pas resté dans ce réveil. Il faut tout le temps que le réveil continue, chaque génération. Il faut que les pères enseignent les enfants, et il faut que les enfants enseignent leurs enfants. Donc il faut que les grands-pères aussi aient soin de leurs petits-enfants, pour que l'œuvre de Dieu continue. La repentance, et on entend bien des choses qui sont absolument fausses. Jonas n'a pas pu amener ces gens à la repentance. C'est la parole qu'il a présentée qui a opéré comme une épée dans leur cœur. Et qui est-ce qui a amené ces gens à la repentance? C'est Dieu. Dieu donne non seulement la foi, mais Dieu donne aussi la repentance. Or, dans certaines réunions d'évangélisation, on vous dit votre part à vous, c'est de vous repentir. Et puis, Dieu vous donnera alors la foi. La foi est un don de Dieu. Mais la repentance, mes amis, c'est aussi un don de Dieu. Moi, je ne peux pas amener les gens à la repentance. Pourtant, je dirais, repentez-vous. Mais qui est-ce qui peut vous donner la repentance? La repentance, elle est donnée. Et je vais vous signaler simplement quelques textes pour que vous puissiez bien vous rendre compte que c'est l'œuvre de Dieu qui fait tout. Hein? Il fait tout ce qu'il veut. Il donne la repentance à qui il veut, comme il endurcit aussi qui il veut. Eh bien, que vous ne soyez pas de ces endurcis, que la parole soit vraiment un marteau ce soir, qu'elle brise vos dernières résistances, et que la repentance vous soit donnée parce que le Seigneur voudrait vous bénir. Prenez dans Actes 5, verset 31, c'est le témoignage de Pierre devant le Sanhédrin, alors qu'il dit, quand on leur interdit de parler au nom de Jésus, les apôtres et Pierre qui est leur bouche, leur prophète, en quelque sorte, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, verset 29. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Donc, qui est-ce qui devait d'abord se repentir? C'est Israël. Et s'il y a eu des Juifs sauvés, c'est parce que Dieu a donné à ces Juifs la repentance. Les Juifs qui ont été sauvés, ce sont des gens auxquels Dieu lui-même a donné la repentance. C'est l'œuvre de Dieu, la repentance. Prenez maintenant dans le chapitre 11 des Actes, quand Pierre, de nouveau, et devant non plus Sanhédrin, mais devant son église, l'église de Jérusalem, et qui lui fait la vie dure parce que dans cette église, on a appris, figurez-vous ça, que Pierre est allé chez des païens à Césarée, ce qui était interdit pour un juif, hein, et qu'il leur a annoncé l'évangile, qu'il a même mangé avec eux, avec ces païens. Et qu'il les a même baptisés. Alors, on lui fait des reproches. Chapitre 11 des Actes. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches. Il y avait de l'irritation dans l'assemblée de Jérusalem, dans l'église, en disant « Tu es entré chez les incirconcis, tu as mangé avec eux. » Et Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Et il raconte toute l'histoire. Hein. Comment? C'est pas lui qui a voulu aller chez Corneille, mais il a été conduit à y aller. Il n'a pas pu faire autrement. Et puis, une fois qu'il leur a tout raconté cela, eh bien, verset 17, quand il dit que le Saint-Esprit est tombé sur eux, pendant qu'il parlait, il n'a pas même fait un appel, il présentait la personne de Jésus. Or, verset 17, puisque Dieu a accordé le même don qu'à nous, vous vous rendez compte? Moi, je voudrais garder ça pour moi. Ça ne m'intéresse pas que les autres l'aient. Ce sera des concurrents. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Vous vous rendez compte? Des croyants qui pourraient s'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent. On a besoin de calmant, hein? Et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens. Donc, qui est-ce qui accorde la repentance? Qui est-ce qui la donne? Littéralement, Dieu a donné la repentance afin qu'ils aient la vie. Il l'a donnée aussi aux païens. Pas seulement aux juifs, comme au chapitre 5, mais aux païens. Prenez maintenant au chapitre 20 des Actes. Paul, parlant aux anciens d'Éphèse, leur rappelle ce qu'il a prêché à Éphèse, pendant environ 3 ans, eh bien, il leur dit que pendant qu'il était avec eux, il a donc servi le Seigneur, il leur rappelle de quelle manière il l'a servi, puis verset 20, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs, quoi? La repentance envers Dieu et la foi au Seigneur Jésus. Il a annoncé ces deux grandes vérités, que pour le salut, il faut passer par la repentance et avoir la foi, croire ce que Dieu dit. Donc, se repentir et croire. Qu'est-ce que vous avez à Ninive? Il y a eu repentance. Et comment est-ce qu'on voit qu'il y a eu repentance? Dans ce jeûne, dans ces manifestations extérieures, mais qui reflétaient un état intérieur. Parce que si ça n'avait été que des formes, eh bien Dieu n'aurait pas regardé à ça. Parce qu'il dit, ce n'est pas de déchirer vos vêtements qui compte. Nous l'avons lu dans 58 d'Ésaïe. Ce n'est pas de jeûner et qui montre vraiment que vous vous repentez. Mais, pour ces païens de Ninive, Dieu a vu que ces formes extérieures, même qu'ils mettaient des sacs sur les animaux, que c'était pas de la singerie. Que c'était pas du carnaval, où on met des habits aux animaux. Mais que c'était vraiment l'expression de leur humiliation. Ils s'humiliaient pour eux-mêmes, et puis ils mettaient aussi leurs biens, leurs troupeaux dans la même situation. Romains chapitre 2, comment est-ce que la repentance peut venir, la vraie repentance? Qu'est-ce qui peut pousser les gens à la repentance? C'est de penser que Dieu pourrait être quand même bon. Pas le bon Dieu, comme on l'entend toujours. Le bon Dieu. Je déteste cette expression. Je dis Dieu est bon. Dieu est bon, mais il n'est pas le bon Dieu qu'on met à toutes les sauces. Il est bon. Et parce qu'il est bon, eh bien, sa bonté, verset 4, méprises-tu, chapitre 2 de Romains, les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissons pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Encore 40 jours, ça veut dire que Dieu n'exécute pas tout de suite le jugement. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Il leur donne du temps pour la repentance, c'est exactement ça. C'est beau. Au fond, encore 40 jours, donner déjà un espoir. C'est pas aujourd'hui. Et puis, c'est pas même demain, il y a 40 jours. Mais attention, c'est vite passé, 40 jours. Alors, c'est le plus vite possible. Il ne faut pas remettre à demain. Ils n'ont pas remis à demain. mais ils se sont communiqués le message de Jonas et Dieu leur a donné la repentance. Mais s'ils ne m'exécutent pas immédiatement, c'est qu'il y a peut-être une possibilité de grâce. Il y a une possibilité de grâce. Alors, ils se sont accrochés à cette pensée, mais ils n'ont pas dit, oh ben, on fera n'importe quoi. Mais si on veut continuer un peu l'étude de la repentance, qui correspond donc à chapitre 3, vous prenez dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 7e, et vous apprenez ce qu'est réellement la repentance, hein, comment elle est produite. Verset 8, l'apôtre leur dit aux Corinthiens, « Ma lettre vous a attristé, mais je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu. » Il y a donc une tristesse qui est agréable à Dieu. Et les Ninivites ont été attristés. Ils n'ont pas été irrités, mais ils ont été attristés selon Dieu. Et cette tristesse les a portés à la repentance. Verset 10. « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Mais la tristesse du monde produit la mort. » Trouvez-moi un homme en qui vous voyez non pas la tristesse selon Dieu, mais la tristesse du monde qui a produit la mort. Judas. Hein? Judas, il a été attristé quand il a vu comment finissait son maître, hein? Mais il a eu une tristesse selon le monde. Le remords, ça c'est pas la repentance, le remords. La repentance nous amène à cette tristesse, et la repentance nous amène à la confession de nos péchés, de nos fautes. Celui qui confesse ses fautes et qui les abandonne, hein, parce qu'il est bien dit cela, il faut les confesser et les abandonner, il obtient alors miséricorde. Eh bien les Ninivites, ils ont passé par cette vraie tristesse, par cette repentance. Et pour vous prouver encore que Dieu vraiment donne la repentance, c'est toujours le même thème, dans 2 Timothée, au chapitre 2, nous voyons que si la bonté de Dieu nous pousse à la repentance, nous aussi, nous devons être des gens pleins de douceur. Nous devons apporter une parole véritable, qui est comme une épée à deux tranchants, mais verset 24. Or, il faut qu'un serviteur du Seigneur, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable, pas irritable, hein, affable pour tous, propre à enseigner, doué de quoi ? D'impatience. Tu ne veux pas te convertir ? Tu seras damné. Je m'en réjouis. Je te fais des grimaces du damné déjà, comme si je savais. Tu grinceras des dents. Puis le ver te rongera. Puis le feu te consumera. C'est pas ça. Il doit redresser verset 25 avec douceur. Les amis, les adversaires, les opposants. Dans l'espérance que Dieu leur donnera, c'est toujours ça, hein, qu'est-ce qui donne la repentance ? Que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Donc vous voyez que c'est Dieu, c'est pas le prédicateur, c'est Dieu qui donne la repentance pour que les âmes arrivent à la connaissance de la vérité et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Parce que le diable, lui, c'est un meurtrier. Et toute sa joie, c'est de faire mourir les gens. Alors, si quelqu'un aurait été heureux que Ninive soit détruite, c'est le prince de Ninive, le roi au-dessus du roi. Prince de Ninive, Satan, prince de ce monde, qui asservit les âmes. Et prenez encore dans la deuxième épître de Pierre, pour vous montrer que ce n'est pas seulement l'enseignement de saint Paul, dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3e, nous apprenons au verset 9 que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement des promesses, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Voilà donc la pensée de Dieu, ce que vous devez bien comprendre. Dieu voudrait que vous arriviez à la repentance. Alors, il a de la patience. Mais souvenons-nous que cette patience aussi a un terme. Alors, nous pouvons croire aussi que Dieu peut donner cette repentance au Québec. Verset 10, alors Dieu a vu qu'ils agissaient vraiment du cœur, qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Donc, ils ont changé de conduite. Revenir de leur mauvaise voie, c'est se convertir. Ils ont fait un demi-tour. Ils se sont détournés de leurs idoles vers Dieu, comme les Thessaloniciens, pour servir le Dieu vivant et vrai. Et alors, eh bien, il a montré sa bonté à leur égard, et le mal qu'il avait résolu de leur faire, il ne le fit pas à ce moment-là. Mais alors, qu'est-ce qui arrive pour Jonas? Hein? Il est un peu comme les Juifs de Jérusalem, les compagnons de l'apôtre Pierre. Cela déplut à Jonas. Vous voyez que le monde ne change pas. Comme cela déplaisait aux croyants de Jérusalem qui avaient été baptisés du Saint-Esprit, qui avaient parlé en langue, tout ce que vous voulez, eh bien, leur cœur n'était pas en harmonie avec le cœur de Dieu. Et alors, qu'est-ce que nous découvrons? Bien, nous découvrons qu'on peut avoir été employé par Dieu, un instrument de bénédiction, et que notre cœur, même après avoir connu la mort avec Christ, parce que c'est ça qui avait changé Jonas, il avait réalisé qu'au fond, il devait servir Dieu d'une façon tout à fait nouvelle, et il l'a servi d'une façon nouvelle, il est devenu obéissant. Il a été vraiment un mort vivant dans l'action qu'il a accomplie. Mais maintenant qu'il y a les résultats, eh bien, il n'est pas content. Qu'est-ce que ça vous montre? Que la chair en nous, même après l'expérience vraiment capitale que l'on fait, que non seulement Jésus-Christ est mort pour nos péchés, mais quand on a saisi cette vérité, qu'on est mort avec Christ, eh bien, c'est pas parce que je sais que je suis mort avec Christ que je n'ai pas en moi la chair. Et la chair, elle est toujours là. C'est pour ça que Paul le sait très bien que la chair est toujours là. Et c'est pourquoi il dit qu'il asservit son corps. C'est pas simplement parce que la chair est dans le corps, la chair est dans l'esprit, la chair est dans l'âme aussi, la chair est dans l'homme tout entier. C'est pas simplement le corps qui est l'élément charnel. C'est notre âme aussi. La chair, c'est ce principe mauvais qui est en nous et qui influence toutes les parties de notre être. Mais je dois donc veiller. Ma chair ne s'améliore pas. La chair de David, le doux psalmiste d'Israël qui a écrit des psaumes merveilleux, elle ne s'était pas améliorée. Et pour un instant où il n'est pas à sa place, il tombe et il fait cette chute épouvantable. Il devient adultère, et non seulement adultère, mais il devient meurtrier. Il a fait tuer Uri le Héthien, un de ses héros, un de ses hommes forts, de son équipe.
il le fait tuer, il a volé sa femme, puis il camoufle toute l'affaire. Voyez ce que peut la chair. Vous direz, ça m'arrivera jamais à moi. Ben, vous ne vous connaissez pas. Je ne vous le souhaite pas, je ne le souhaite pas, je demande au Seigneur de nous garder, mais je sais que le grand ennemi, je n'ai pas à le chercher chez les autres, il est en moi. Hein? Il est en moi. Alors, on est sur ses gardes. Jonas, cela lui déplaît. Et il est irrité. Et pourtant, lui, il a été gracié. Hein? Il sait ce que c'est que la grâce. Il a été gracié. Il a été restauré. Il sait que Dieu a eu pitié de lui. Mais même quand on a fait des expériences avec le Seigneur de cette façon-là, il faut encore se laisser enseigner par Dieu. Voyez-vous, on n'est jamais sorti de l'école. On est toujours à l'école. Apprenez de moi. Jusqu'à mon dernier souffle, je serai à l'école du Seigneur. Et je dois me laisser enseigner par Dieu. Pierre le dit, après ces 3 ans d'études bibliques avec le Seigneur, après ces 3 ans de séminaire avec le meilleur des maîtres, Jésus, eh bien, il dit à Corneille, Dieu m'a appris. Dieu m'a appris. Il a dû continuer d'apprendre. Dieu m'a appris de ne considérer aucun homme comme pécheur ou impie, mais de reconnaître qu'en toute nation, un homme qui le craint peut lui être agréable. Alors, qu'est-ce qui manque à Jonas? Eh bien, c'est que Jonas, il a pensé que le message, au fond, que tout quand même dépendait de lui. Il n'a pas été seulement un porteur du message, mais il s'est en quelque sorte attribué le message. Et le succès, eh bien, le succès, au lieu de se réjouir de voir le succès, qu'est-ce que c'était le succès? Les âmes sauvées. Lui, il s'est dit, mais si ça ne se réalise pas, la menace que j'ai faite, eh bien, on va dire que je suis un faux prophète. Puis on va se moquer de moi. Donc il est encore au centre. Voyez-vous, jusqu'au bout, nous nous mettons au centre. Il n'a pas renoncé encore à lui-même. C'est tous les jours que nous devons renoncer à nous-mêmes. Vous dites, oh, mais moi j'ai renoncé à moi au moment de ma conversion. Mais depuis, combien de fois est-ce que vous avez renoncé? Qu'est-ce que Jésus nous dit? Quand on prend notre croix, il faut se renoncer chaque jour. C'est toujours à recommencer. Et si vous ne comprenez pas cela, bien, vous n'avez rien compris. Vous dites, moi je suis sauvé. Ça ne m'intéresse pas de vous entendre toujours dire que vous êtes des sauvés. Je veux bien. Mais ce qui m'intéresse, c'est que vous renonciez aujourd'hui. Est-ce que tu as renoncé aujourd'hui? À toi. À ce qu'on t'admire. Si vraiment vous voulez être employé par Dieu, vous devez accepter l'enseignement de Jésus au sujet du serviteur. Et voyez-vous, c'est ce que Jonas n'avait pas compris. C'est une grâce s'il nous emploie, s'il opère quelque chose avec nous, mais nous ne sommes jamais les agents, nous ne sommes que des instruments dans sa main. C'est lui qui opère, c'est lui qui agit, c'est lui qui a tous les droits. Nous n'avons aucun droit. Nous n'avons aucun droit. Si nous le servons, c'est par pure grâce. Lisez chapitre 17 de Luc, versets 7 à 10, pour bien comprendre ce qui est arrivé à Jonas. « Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, « Approche vite et mets-toi à table, oh Jonas. Hein? » Pourtant, le Seigneur, il sait nous servir. Hein? Il sait se lever de table pour servir ses serviteurs. Élie, justement, qui avait beaucoup impressionné certainement Jonas, eh bien, Élie avait bénéficié des soins de Dieu
quand il dormait découragé sous un genêt, qu'il avait peur de la Jézabel à qui il le menaçait de mort, eh bien un ange lui a tapé sur l'épaule et lui a dit, il l'a réveillé, puis il a dit, Élie, la route est longue pour toi, mange. Puis il a trouvé des galettes, il a trouvé de l'eau et il a pu boire, il s'est restauré. Puis après il s'est rendormi, puis de nouveau l'ange a l'heure voulu l'a réveiller pour qu'il mange encore. Hein, il a fait sa petite cure de sommeil et puis sous la direction de l'ange. Et puis avec les forces qu'il a, avec les aliments qu'il a reçus, il a eu la force d'aller jusqu'à la montagne de Dieu. En Horeb. Donc Dieu s'est occupé des siens. Mais Jésus nous dit, mais tout ça c'est une grâce, mais est-ce que le Seigneur n'a pas le droit, puisqu'il est le maître, ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, sers-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui avait été ordonné? Est-ce que Dieu devait de la reconnaissance à Jonas? Non. Il avait fait ce qui lui avait été ordonné. Vous de même, verset 10, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Donc, même si Dieu nous a puissamment employés, nous devons rester dans l'humilité, dans la douceur et dans l'humilité, et puis nous réjouir de ce que Dieu fait. Ça ne se passe pas comme je le pensais, mais je n'ai pas à contester avec Dieu. Qui es-tu, toi, qui contestes avec Dieu? Est-ce que le serviteur contestera avec son maître? Non, parce que Dieu a des voies absolument incompréhensibles. Et je vous cite le passage, Romains, chapitre 11, hein, un verset qui m'a profondément instruit et qui m'instruit toujours. Versets 33 à 36. « Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables. » Voilà qu'il dit que il va détruire Ninive, et tout à coup, il ne le fait pas. Alors, vous dites, mais alors, il y a le oui et le non en Dieu? Non. C'est un Dieu d'amour. Mais un Dieu saint. Que ses jugements sont insondables, et ses voies incompréhensibles. Jonas ne comprenait pas. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Voyez-vous, la parole de Dieu, elle est enseignée, elle est prêchée pour le salut. Mais Jonas, lui, il aimait bien cette parole, oui, il l'a prêchée, mais cette parole, c'était une épée pour les autres. Ça aurait dû être une épée pour lui-même. Mais nous, on emploie toujours la parole de Dieu, on l'emploie souvent pour les autres, pour sabrer les autres. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, c'est par lui, c'est pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire au siècle des siècles. Amen. Je n'ai pas à me préoccuper de moi-même, de mon ministère. Mon ministère. Qu'est-ce que c'est mon ministère? Comme les gens qui disent « mon église ». Mon église. Jacques Blocher, un de mes amis de Paris, dit « comme un coq sur son fumier, mon église, mon assemblée, mon assemblée. » Qu'est-ce qu'il y a là dans cette assemblée? Vous êtes comme un coq sur votre fumier, parce que les gens remarquent bien toutes les lacunes de votre assemblée, de votre église. C'est la vôtre qui est la meilleure. Alors attention. Avant, Rome pensait qu'il n'y avait que. Puis maintenant, nous pensons qu'il n'y a que nous qui sommes dans la vérité, puis tous les autres sont des damnés. Non, non. Il implore l'Éternel et il dit, vous voyez, Jonas, maintenant quand il voit que la ville n'est pas détruite, il implore l'Éternel, puis il dit, pas, Éternel, ce que je disais quand j'étais dans mon pays.
Et puis, il pense qu'il peut s'excuser maintenant. Il revient en arrière.
Nul homme qui regarde en arrière n'est propre pour le royaume de Dieu. Hein. Celui qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Vous n'avez pas à revenir sur le passé, là. C'était jugé, c'est fini. Mais lui, il déterre tout cela. Et puis, il oublie le poisson, le monstre, il oublie les eaux. Et il dit, mais c'est ce que je voulais prévenir. Vous voyez, ce besoin de nous justifier. Comme Adam. Adam, tout de suite, quand il doit sortir de tous ces arbres, qu'est-ce qu'il dit à Dieu ? La femme que tu m'as donnée, c'est toi. Comme disait l'autre, cette femme que tu m'as donnée. Cette femme. Il n'avait pas besoin de me donner cette femme. Heureusement que Dieu est juste. Mais vous voyez, il aurait pu l'anéantir, retirer son esprit et son souffle. Il l'a laissé vivre quand même. Bien, Jonas, il essaye de se justifier, parce que après, évidemment, Ève, elle s'est justifiée aussi. Elle a accusé qui ? Le serpent. Pourquoi est-ce que cet animal est venu ? Mais oui. Le serpent m'a séduit. Je savais que tu es un Dieu compatissant. Ah, je savais. Hein, c'est un type instruit. Il est docteur en théologie. Je savais. Je savais bien des choses. Je savais que tu es un Dieu compatissant. Comment est-ce qu'il savait cela ? Bien, il le savait parce qu'il avait déjà fait une expérience. Il savait que dans son pays, au temps de Jéroboam, qu'est-ce qui aurait dû arriver ? Le jugement. Mais pourtant, parce que Dieu avait eu pitié du peuple, eh bien, Dieu avait permis que même Jéroboam retrouve les villes perdues et reconquiert tout ce qu'ils avaient perdu pour que le peuple puisse en jouir. Parce que Dieu avait eu pitié du peuple. Donc, il avait fait l'expérience de la bonté de Dieu pour Israël, pécheur. Mais non seulement cela, comment est-ce qu'il savait que Dieu, puisqu'il connaît sa théologie là, hein, Dieu est compatissant, miséricordieux, lent à la colère. Vous vous rendez compte de ce qu'il sait sur Dieu ? Est-ce que vous en savez autant ? Grand en bonté, ou riche en bonté, et qui se repent du mal. Qu'est-ce qui avait dit cela ? Dieu lui-même a qui ? À Moïse, chapitre 34 du livre de l'Exode. Dieu s'était présenté à Moïse. Quand Moïse, on a chanté la prière de Moïse, hein, fais-moi voir ta gloire. Eh bien, Dieu lui dit, tu peux pas voir ma face, mais enfin, tu me verras par derrière. Je passerai et puis je crierai la gloire de l'Éternel. Et en effet, ça a eu lieu et Moïse a entendu ces paroles vraiment sublimes. Verset 5 du chapitre 34 de l'Exode. L'Éternel descendit dans une nuée et se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et cria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, grand ou riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Oui, il pardonne. Vous savez ça. Et qui ne tient pas le coupable pour innocent. Alors ça, il faut le savoir aussi. Et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Eh bien, Jonas savait qui était l'Éternel. Il savait tout cela. Alors il dit, comme je savais que tu pouvais te repentir,
je me disais, de toute façon, ça ne sert à rien que je te serve. Ça ne sert à rien que j'aille prêcher le jugement à Ninive, parce que il a déjà fait tellement de fois cela, qu'il s'est repenti du mal. Alors maintenant, Seigneur, tu m'as compromis. Bon, j'ai voulu te servir, j'ai voulu être obéissant, mais maintenant, éternel, ça ne me dit plus rien de vivre. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que c'est sa raison de vivre? Quelle est votre raison de vivre? Le succès? Qu'on dise du bien de vous? Ah, ça, c'est un prophète. Voyez ce qu'il a dit. Ça est arrivé. Et c'est ça que vous attendez? C'est ça que vous attendez? De votre action, de votre parole? Au lieu de vous réjouir, ils se sont repentis. Ils seront sauvés, ils seront graciés. Voilà ce qui devrait nous réjouir. Mais non, maintenant, Seigneur, ça ne dit plus rien de vivre. Non. Prends-moi donc la vie, car la mort est préférable à la vie. Ça ne vaut plus la peine que je sois là. Qu'est-ce qu'on va dire de moi quand je passerai dans cette ville, parce qu'il est encore dans cette ville-là? Je ne peux plus me montrer. Je perds la face. Le plus grand que Jonas, regardez-le sur la croix. Il a accepté, lui, de perdre la face. Mais Jonas, il ne veut pas perdre la face. Parce que Jésus sur la croix, Jésus crucifié, hein, puisqu'on a un crucifié là, Jésus crucifié, il a perdu la face. On a dit qu'il le délivre maintenant s'il tient à lui. Si c'est vrai qu'il est le Fils de Dieu, bien qu'il le montre, Dieu, qu'il le sorte, qu'il soit décloué. Et les brigands aussi lui disaient, sauve-nous et sauve-toi toi-même et sauve-nous. Il avait sauvé tant de personnes. En Jonas, il ne veut plus vivre. Non, prends-moi. Mais qu'est-ce qui avait dit ça avant lui? Un de ses maîtres. Élie aussi. Parce qu'Élie s'était figuré qu'il n'y avait plus que lui. Je suis resté le seul prophète de l'Éternel. Vous vous rendez compte? Élie, qui était pourtant un homme de Dieu, hein? Vraiment, un homme qui se tenait dans la présence de Dieu, un homme qui n'avait pas fui. Il a fui Jézabel, oui, il a fui une femme, parce qu'il a eu peur d'une femme. Pourtant, il n'avait pas eu peur des prophètes de Baal, il les avait même égorgés. C'est un travail, ça. 400 prophètes. Le couteau d'Élie. Oh là, hein, il avait fait du travail. Puis alors, il a dû fuir après ça, parce qu'il a eu peur d'une femme, la Jézabel. La grande maquillée. Hein? Vous les connaissez, les grandes maquillées, celles qui perdent beaucoup de temps devant leur miroir avec et qui essayent toutes sortes de produits pour se refaire la façade? Maintenant, Éternel, prends-moi, prends ma vie. Élie avait dit, moi non, moi aussi, Seigneur, reprends-moi. Mais, voyez, à Élie, le Seigneur lui donne aussi une leçon. C'est la fameuse leçon du chapitre 19 des rois. Il lui fait vivre un tremblement de terre, il lui fait vivre un incendie, il lui fait vivre un cyclone. L'Éternel n'est pas dans le vent, l'Éternel n'est pas dans le feu, l'Éternel n'est pas dans le tremblement de terre. Puis tout à coup, il entend une voix douce et subtile. Et c'est là que le Seigneur lui parle. Oh, que c'est beau. La façon dont Dieu enseigne ses prophètes. Hein? Il a enseigné Élie d'une certaine manière sur le mont Horeb. Mais les pensées de Dieu au sujet d'Élie, quand tu lui as dit, Élie a dit, mais Seigneur, moi je suis resté seul. Il a dit ça plusieurs fois. Dieu lui dit, mais mon petit Élie, tu ne les connais pas les 7000? Moi je les connais. Il y en a 7000 qui n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal et qui n'ont pas baisé. Le pauvre Élie, Christ au ciel, il y en a 7000, et ces 7000, il ne les connaissait pas. Il n'a jamais eu de contact avec eux. Vous rendez-vous compte? Vous croyez que vous êtes tout seul? Vous, dans la vérité? Il y en a d'autres qui connaissent le Seigneur et qui ont une relation avec le Seigneur. Qu'en est-il, frères et sœurs, de votre relation personnelle avec le Seigneur? Je connais des gens qui ont une relation personnelle avec le Seigneur et qui ne font pas partie des milieux évangéliques, et qui ont pourtant une relation personnelle avec le Seigneur, et qui sont pour moi des exemples d'une vie réelle, des gens qui sont habités par Dieu. Et on le sent, on le voit dans leurs regards, on le voit dans leurs actes, dans leur vie. Et ils ne se glorifient pas. Ils ne pensent pas qu'ils sont tout seuls. Et ils savent qu'ils vont passer, eux. Alors, c'est quand même beau, hein, les voix de Dieu pour Élie, c'est le chariot de feu. Est-ce que Jonas se serait dit, puisque mon père Élie, hein, mon père spirituel, a été enlevé quand il a dit, j'en ai assez de la vie, voilà qu'il y a le chariot de feu, peut-être que ça va m'arriver. Après la descente dans l'océan, après le poisson, ce serait quand même magnifique que pour moi, ce soit comme pour Élie. Élie a dit, prends ma vie, moi aussi, j'en ai assez de vivre, prends ma vie. Puis voilà qu'un chariot de feu, avec des chevaux qui sont venus, voilà, mon départ de Ninive. Hein? Voilà, dans le chariot de feu, vers les étoiles, plus haut que les étoiles. Vous vous rendez compte, je pourrais devenir mon petit Élie. Et on pourrait dire, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Ça ne lui sera pas donné. Ça ne lui sera pas donné à ce petit Jonas qui voudrait être comme Élie. Élisée a vu cela. C'est beau la parole. Vous savez, c'est passionnant la parole. Ça vous nourrit, non? C'est mieux que le cinéma, vous savez. Puis c'est vrai, puis ça me concerne. Alors, l'Éternel, vous voyez sa tendresse. Moi, je trouve que c'est vraiment le Dieu au cœur de mer que me présente Ésaïe, un Dieu. L'autre jour, il y avait des femmes dans une conférence qui critiquaient justement et le pape et enfin tous les hommes, parce que soi-disant, nous les hommes, on présente toujours un Dieu mâle, qu'elle disait cette femme. Elle voudrait que Dieu soit femelle, comme si Dieu pouvait avoir un sexe. Dieu est Dieu. Nous sommes complètement idiots quand nous parlons de Dieu, nous parlons de toute autre chose. Et Dieu est un père. Et puis, mais comme il est, il est comme une mère, comme quelqu'un que sa mère console. Il est même parlé qu'il nous prend sur ses genoux et qu'il nous caresse. Vous connaissez les caresses de Dieu? Vous connaissez le sourire de Dieu? Le sourire de Dieu. Comme quelqu'un que sa mère console, je vous caresserai sur les genoux. C'est une mère, Dieu. Oui, Dieu est mère. Et il est père. Père et mère, il est tout. Il a cette tendresse, la vraie tendresse, on la trouve en Dieu. Puis vous savez, hein, là vraiment, il est mère, parce que le père, il pourrait donner une calotte à Jonas, non? Hein? Il est tannant, ce Jonas. L'Éternel lui dit, mais fais-tu bien de t'irriter? Bon, Jonas sorti de la ville. Et il s'assit. C'est beau. Il s'assit à l'orient de la ville. Et il se fit une cabane. Là, je ne vais pas entrer dans trop de détails. Les gens sont en train de se faire des cabanes. Aujourd'hui. On fait des cabanes. On est sorti de la ville. On n'est plus dans ce Sodome. On n'est plus dans cette Babylone. Mais on va attendre la destruction de Babylone. Alors on fait sa petite cabane sur la colline. Puis de là, de notre cabane, de notre assemblée, on va dire, regardez ce qui va leur arriver. Vous allez voir, hein, ce qui va leur arriver à tous ceux qui sont là-dedans encore. C'est justement ceux qui sont là-dedans qui vont être sauvés, peut-être. Bon, non, mais c'est pas possible. Il se fait une cabane. Et il se tient à l'ombre. Maintenant, moi je vais à l'ombre. Je me tiens à l'ombre. Puis je verrai bien ce qui arrivera à la ville. Hein. Je regarde. Moi, j'ai fait mon bout.
leur annoncer la parole. Maintenant, que le jugement les atteigne. Puis l'Éternel est plein de compassion. Comme il sait très bien que sa cabane, ça ne va pas lui donner de la fraîcheur. Alors, Dieu, dans sa grâce, là en Orient, il fait pousser. Vous voyez, c'est toujours Dieu qui fait tout. Il fait pousser un ricin, ce qu'on appelle un kikajon aussi. Il fit croître un ricin. C'est une plante, là, avec des grandes feuilles, qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête. Il perdait la tête, ce Jonas. Alors, le Seigneur est plein de compassion. Et il lui fait de l'ombre à sa tête pour lui ôter son irritation. Vous voyez que Dieu, il désire notre guérison. Quand il nous voit irrités, il est triste, Dieu. Pourquoi tu es irrité? Il a même dit ça à Caïn. Parce qu'au fond, Jonas est comme un Caïn ici. Quand Caïn a vu que Abel avait été agréé, accepté, il a été jaloux. Jaloux de son frère, puis il était triste et irrité. Et Dieu parle à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Si tu fais bien, ne seras-tu pas agréé? C'est beau, Dieu a parlé à Caïn, Dieu a voulu s'occuper de Caïn. Mais Caïn est devenu un meurtrier. Mais Jonas, il a des sentiments de meurtrier. Mais voilà alors, maintenant qu'il a le ricin, il est content. Jonas éprouva une grande joie à cause du ricin. Le Seigneur me bénit, hein, j'ai quand même encore une grâce. Mais le lendemain, à l'aurore, voyez, Dieu est un bon pédagogue, il fit venir un ver. Vous vous rendez compte que Dieu s'occupe des vers? Vous aviez déjà pensé que Dieu aussi fait venir un ver? Il commande à quoi? À des oiseaux. Il est le Dieu dans les cieux du ciel. Il est le Dieu qui commande à des lions, et puis à des poissons dans la mer, puis maintenant un petit ver. Et oui. Jésus a dit, moi je suis un ver et non point un homme, le propre des hommes, le méprisé du peuple. Eh bien oui, il fait venir un ver qui ronge le ricin, et le ricin sécha. Alors au lever du soleil, voilà, c'est toujours Dieu qui agit, hein. Dieu qui est... Il fait ce qu'il veut, mais il enseigne. Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Alors de nouveau, Jonas, oh Seigneur, il demande la mort. Il dit, la mort m'est préférable à la vie. Et Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter? Voyez la patience de Dieu. Il nous parle une fois, deux fois, et l'on n'y prend pas garde. Mais qu'est-ce qu'il ose répondre? Jonas l'a élu. Je vais bien m'irriter jusqu'à la mort. Alors l'Éternel maintenant lui parle. Et lui dit, mais Jonas, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine, que tu n'as pas fait croître, donc tu n'as rien fait, toi tu es un zéro, qui est né dans une nuit et qui a péri en une nuit. Alors là, tu te lamentes sur ce végétal. Mais moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, c'est donc des enfants, et puis des animaux en grand nombre. Donc Dieu est aussi le Dieu des animaux, c'est le Dieu de toute la création, et il nous montre qu'il aime tous les hommes. C'est pas seulement le Dieu d'Israël, mais c'est le Dieu des nations. Le Dieu du monde entier. Et qu'est-ce que Jésus nous dit, que Dieu a tant aimé? Le monde. Ayez un amour aux dimensions du cœur de Dieu. Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, que ce soit le juif, que ce soit le grec, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et sachez vous réjouir s'il y a des conversions. Alors reprenez tout l'enseignement de Jésus et vous verrez que Jésus a essayé de montrer à ses disciples que Dieu était un Dieu d'amour Et il a averti les Juifs. Vous pensez que c'est vous qui avez la vérité, mais souvenez-vous que dans le royaume, il en viendra du nord, il en viendra du midi, il en viendra de l'est, il en viendra de l'ouest, qui s'assiéront à la table d'Abraham dans le royaume, tandis que de ceux qui avaient la connaissance exacte, peut-être, de la vérité, eh bien, ils seront jetés dehors parce qu'ils n'avaient pas la réalité. Vous avez cela dans chapitre 8 de Matthieu. Matthieu 8. Mes amis, nous n'avons fait que survoler, au fond, ce livre de Jonas et j'ai l'impression de ne vous en avoir rien dit. Maintenant, j'espère que vous allez vous-même reprendre ce livre et vous dire qu'est-ce que j'apprends sur Dieu. Ben, Dieu parle, Dieu ordonne, Dieu commande, Dieu est le créateur, Dieu écoute les prières des païens, Dieu reçoit leurs offrandes, Dieu prépare un grand poisson, Dieu conserve Jonas dans le ventre du poisson, Dieu sauve. Dieu parle au poisson, Dieu parle une seconde fois, Dieu donne le message, Dieu écoute, Dieu voit, Dieu se repent, Dieu fait grâce, Dieu est miséricordieux, Dieu est lent à la colère, Dieu est grand en bonté, Dieu questionne, et Dieu fait croître ce ricin, Dieu éduque, Dieu est un père vraiment au cœur de mère. Alors vous apprenez des choses sur Dieu dans ce livre. Et je dirais, juste comme dernier trait, dans ce livre de Jonas, qui est vraiment une merveille, vous avez, au fond, tout le conseil de Dieu. Vous avez la première venue de Jésus, la première venue du serviteur fidèle. Qu'est-ce qui lui est arrivé à celui qui est descendu de la gloire ? Alors que nous avons fait ce parallèle, hein. Il est descendu, il s'est levé, lui, le Fils unique de Dieu. Il est venu une première fois, et cette première fois, qu'est-ce qu'on lui a fait? On l'a jeté par-dessus bord, on l'a crucifié. Et que savons-nous du Fils de Dieu? Il reviendra une seconde fois, il reviendra une seconde fois. Pourquoi? Pour qui? Pour apporter le salut à ceux qui l'attendent. Et alors là, on pourrait vous parler de ce qui va arriver quand le Seigneur revient une seconde fois. Il revient d'abord sur les nuées du ciel. Et puis, ce sera mieux que le char d'Élie. Il enlèvera d'abord tous ceux qui l'attendent, tous ceux qui l'aiment. Il enlève son Église. Il la prend auprès de lui, afin de revenir avec elle. Et alors, ces rachetés qu'il enlève lors du premier acte de son retour, car ce retour a lieu en deux actes, pendant que les élus sont dans la gloire avec le Seigneur, qu'est-ce qu'annoncera l'Évangile ? Qu'est-ce qui annoncera l'Évangile? Les Juifs. Parce que le salut vient des Juifs. Jésus est venu une première fois. Les Juifs ne l'ont pas reçu. Alors, qu'est-ce qui leur est arrivé aux Juifs? Ils ont été dispersés et ils sont tombés dans le fond de l'abîme. Ils sont tombés au milieu des nations. Ils n'ont plus été utilisés par Dieu, ils n'ont plus été témoins. Ils avaient comme mission d'être témoins auprès de toutes les nation. Est-ce qu'ils ont été fidèles dans leur témoignage? Non. Ils n'ont pas rendu témoignage. Ils ont cru que le salut était seulement pour eux. Et puis, en même temps, alors, ils ont été infidèles. Ils ont imité les nations. Ils n'ont pas été fidèles dans leur témoignage, comme Jonas n'a pas été fidèle dans son témoignage. Et il a dû disparaître dans les eaux. Mais, à la fin, eh bien, les Juifs et qui ont disparu parmi les nations, Dieu a confié son témoignage à qui?
à un autre peuple, l'Église, hein, et a confié une mission à l'Église. Ninive, au fond, qui est le monde, bien, les gens ont été sauvés. Les gens ont été sauvés. Mais maintenant, l'Église, à quoi en est-elle? Est-ce que nous sommes encore capables d'annoncer vraiment l'Évangile, nous autres, les chrétiens? Eh bien, les chrétiens, à l'heure actuelle, ils sont handicapés par les iniquités qui